Donc la dernière fois, nous étions bien sûr en train de voir le canon du Nouveau Testament, de voir l'importance d'établir un canon et de comprendre vraiment que pour nous, hein, il était essentiel d'avoir eh bien entre nos mains un texte que nous pouvons avoir entièrement confiance en sa source, une source qui est divine. Hein, de comprendre que ce livre que nous avons entre nos mains, c'est bel et bien la parole de Dieu, que c'était d'une importance cruciale et même éternelle pour nous, hein, de bien comprendre l'origine, la source et comment s'est effectuée cette reconnaissance, hein, de quels écrits devaient être inclus dans le canon du Nouveau Testament. Mais avant d'aller plus loin dans les notes aussi, passer au paragraphe suivant. Je voulais juste rappeler hein, que le Seigneur Jésus avait donné plusieurs avertissements, hein, que les apôtres aussi en avaient donné également concernant la venue plus tard d'usurpateurs, hein, de personnes se prétendant être Christ, de personnes se prétendant être apôtres, qu'ils viendraient dans les églises, trompés, hein, même les élus de Dieu et les apôtres ont dû combattre contre des hérésies, combattre contre des fausses doctrines. Et je crois, je voulais souligner cela parce que voilà l'importance pour nous d'avoir un texte que nous reconnaissons comme étant la parole de Dieu. Parce que si elle n'a pas cette autorité-là, comment est-ce que nous pouvons dire à une autre personne ce que toi tu enseignes, c'est faux? Si nous n'avons pas cette source fondamentale, cette source sûre hein, de ce texte comme étant la parole de Dieu. Et plus tard même, alors que l'hérésie hein, dans les églises augmentait, que certains au sein de l'église commençaient à réclamer même l'acceptation d'écrits religieux apocryphes, l'église, dans sa majorité, a eu la sagesse de tenir des conciles pour confirmer officiellement hein, la raison pour laquelle tel texte devait être inclus dans le canon et pourquoi d'autres ne l'étaient pas. Et que nous avons aujourd'hui, avec ces 27 livres du Nouveau Testament, eh bien quelque chose de concret qui nous est présenté, quelque chose qui même tient la route, hein, qui est lié hein, doctrinalement. Mais les critères qu'ils ont utilisés, justement, leur ont permis de distinguer de manière objective ce que Dieu leur avait donné, hein, de pouvoir distinguer ce qui était divin de ce qui était humain. Ils ont conclu hein, qu'ils s'en tiendraient aux livres qui étaient acceptés de manière universelle comme étant des livres inspirés. Hein, et que, ce faisant, ils ont quand même décidé de faire comme les premiers chrétiens de Actes chapitre 2, 42, de continuer dans l'enseignement des apôtres. Okay? Parce que si on considère ce qu'est le Nouveau Testament, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, nous avons les quatre évangiles, hein, ce sont des sortes de biographies hein, de Jésus-Christ. Nous allons voir le livre des Actes, qui est ben, le livre historique, qui retrace hein, les événements historiques de la première Église, de la propagation de l'évangile. Puis après, ce sont des épîtres, des lettres contenant l'enseignement des apôtres. Et donc, c'est important pour nous de souligner le fait que, voilà, ces chrétiens d'autrefois ont compris l'importance, justement, de continuer dans l'enseignement des apôtres et pas d'ajouter foi à n'importe quel écrit hein, qui se présenterait à eux. Mais maintenant, j'aimerais aborder une autre question. Est-ce qu'il est possible que d'autres livres puissent être ajoutés au canon? Hein, c'est cette question sur l'idée, est-ce qu'il peut y avoir une nouvelle révélation hein, et que cela puisse être retranscrit et inclus dans le canon biblique? Alors, pour rappel, le canon des Écritures, c'est quoi? Hein, ce sont tous ces livres de la Bible, hein, ces ouvrages chrétiens. Qui ont été reconnus comme constituant la parole de Dieu, qui sont reconnus comme étant inspirés. Et la question, c'est vraiment, est-ce que la Bible est complète ou incomplète? Hein, qu'on se pose la question, quand les gens posent la question, est-ce qu'il est possible que Soit il y a une nouvelle révélation, ou soit on découvre tiens, une nouvelle lettre que Paul aurait écrite. Est-ce qu'il faut l'inclure hein, dans le canon des Écritures? Première chose, c'est de se rappeler que le canon, quand même, que nous avons et que nous reconnaissons aujourd'hui, il a quand même presque 2000 ans. Ça serait quand même, pour moi, quelque chose d'assez extraordinaire de voir qu'après tant de siècles, déjà, on puisse retrouver encore des écrits, des nouveaux écrits de Paul, chose que ben, les chrétiens à l'époque n'ont pas certainement accepté ou reconnu comme étant inspiré de Dieu. Mais c'est toujours cette idée vraiment de est-ce que ce canon est véritablement fermé ou est-ce qu'il doit être maintenu ouvert? Moi, la réponse déjà, et c'est ce qu'on avait déjà vu, hein, c'est le fait que le canon des Écritures, c'est Dieu qui l'a déterminé. Hein, les êtres humains n'ont fait que reconnaître la main de Dieu dans les écrits hein, qu'ils ont vus, hein, lus et étudiés, et qu'ils ont reconnu comme étant de la parole de Dieu. Mais il est important justement de faire cette distinction-là, hein, parce que aujourd'hui, est-ce que nous aurions cette même capacité que ben, les chrétiens d'autrefois, déjà les chrétiens du premier siècle, hein, ceux qui ont connu les apôtres, ensuite, dans les siècles suivants, ceux qui ont connu les apôtres, qui ont été disciples des apôtres, ou les disciples des apôtres, qui ont eu quand même, on va dire, de première main, hein, les enseignements des apôtres, est-ce que nous serions déjà plus aptes que ces personnes-là pour reconnaître que oui, ça c'est de Paul et ça c'est inspiré? Est-ce que nous aurions vraiment cette capacité-là aujourd'hui? Bon, je crois que, effectivement, si c'était la volonté de Dieu et que par l'Esprit Saint, il nous rendrait capables de faire ces choses-là, mais je comprends aussi que, voilà, depuis 2000 ans, rien ne s'est produit. Et que depuis 2000 ans, cela n'a pas empêché non plus l'Église, l'Évangile de se propager, des âmes d'être sauvées, hein, des églises d'être fondées, des chrétiens d'être affirmés dans leur foi et grandir dans la foi. Ce n'a pas empêché quoi que ce soit. Mais la responsabilité des chrétiens a toujours été celle de reconnaître que Dieu a révélé sa volonté par ses écrits, hein, et qui sont donc inspirés de Dieu. Donc tous ces livres qui ont été reconnus, acceptés, n'ont pas été considérés comme inspirés parce que ce sont des hommes qui ont décidé cela, mais encore une fois, parce qu'ils ont reconnu que ces œuvres avaient quelque chose de spécial et que pour eux, ils y voyaient donc que Dieu, hein, était derrière, la retranscription et même la préservation et le partage de ces écrits. Alors oui, ce processus, comme on l'a vu, c'est un processus qui a été progressif, hein. Quand on parle de la Bible, on parle des livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Donc ça a commencé avec les érudits, les rabbins juifs, ça a continué, hein, avec l'Église primitive, jusqu'à la fin du IVe siècle, où on a eu des chrétiens qui ont étudié et discerné les choses pour établir ce canon que nous connaissons aujourd'hui. Mais alors, que se passerait-il si oui, si un livre d'origine apostolique était redécouvert aujourd'hui? Hein, on sait, bien sûr, que Paul a écrit d'autres lettres. Hein, on le sait par rapport même à l'Épître aux Corinthiens. Il se peut qu'il ait même écrit deux autres lettres que celles que nous connaissons. Mais qu'est-ce qui se passerait si on redécouvrait comme ça un document, un parchemin, et on se dit, oh, tiens, une lettre de Paul à telle et telle église. Est-ce que, voilà, de ce fait, on devrait se dire que, ben tiens, il faut l'inclure dans la Bible. Qu'est-ce qui se passerait? Donc même si notre épître a été retrouvée et qu'il était possible même de vérifier qu'elle était bel et bien de Paul, hein, il faudrait que vraiment tout coïncide. Hein, la date, les destinataires aussi, de ce que l'on sait par rapport au voyage missionnaire de Paul, mais également le style littéraire hein, que Paul a employé, voir si même des personnes citées, c'est des personnes sont déjà citées dans d'autres lettres, qui sait. Mais voilà, il faudrait s'assurer et pouvoir vérifier que cette lettre était bien de Paul. Et même si c'était le cas, je ne pense pas que nous pourrions l'ajouter au canon des Écritures. Encore une fois, on suppose que Paul a écrit de nombreuses lettres à divers groupes d'Église au cours de son ministère, mais la plupart d'entre elles n'ont pas été préservées ni même partagées comme celles que nous avons dans le canon aujourd'hui. C'est ce qui nous amène à comprendre que ce n'était pas la volonté de Dieu que ces écrits soient intégrés et reconnus comme étant inspirés de Dieu et inclus dans le canon. Les autres écrits des apôtres, des prophètes, n'ayant pas été reconnus par l'Église primitive comme étant inspirés, je ne pense pas qu'ils devraient être reconsidérés aujourd'hui, 2000 ans plus tard, si nos ancêtres autrefois ne l'ont pas fait. Or, est-ce qu'il est possible aujourd'hui, par contre, de reconnaître d'autres livres? Supposons que quelqu'un clame avoir reçu une révélation de Dieu et se mette à écrire un livre, et que des gens se disent: ah, mais puisque c'est une révélation de Dieu, puisque ça a été écrit, ne faudrait-il pas l'inclure dans la Bible? Alors pour cela, on doit aussi comprendre le rôle qu'ont eu les auteurs bibliques dans l'établissement de la parole de Dieu, mais aussi de celle de l'Église, parce que c'est lié. Ce qu'on appelle la bibliologie, qui est la doctrine concernant la Bible, est liée à celle de l'Église, l'ecclésiologie, et notamment en ce qui concerne les ministères dans l'Église. Et si on regarde bien, si on analyse bien les choses, on comprend que les apôtres et les prophètes ont eu un rôle spécifique par rapport à la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28 nous rappelle que Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. On a déjà vu les passages d'Éphésiens à l'occasion de ces séries sur l'Église, où Paul rappelle au chapitre 2, verset 20, que l'Église a été édifiée, les chrétiens ont été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Et plus loin au chapitre 3, les versets 2 à 5, et ça, c'est faut vraiment bien comprendre ce que Paul il est en train de parler ici. Mais ici, du moins, vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. Donc, il y a une grâce, il y a un message qui a été confié à Paul spécifiquement pour cette église. Mais il dit au verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Donc, quelle a été la source de cette lettre écrite aux Éphésiens? Une révélation. Une révélation du mystère que Christ a confié à Paul. Et verset 4, en les lisant, donc on a ce lien entre cette révélation divine et l'écriture. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence, la connaissance, la science que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant, et notez bien, par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Dans cette série sur l'Église, on a parlé des différents ministères dans l'Église locale, et j'avais bien sûr pris le temps de montrer que quand on a le mot apôtre, ça ne signifie pas à coup sûr un apôtre de Christ, au même titre eh bien que les 12 plus Paul 13, qui étaient des apôtres de Christ, choisis par Christ, envoyés par Christ. Le mot apôtre, ça signifie envoyé. Donc, quand les églises, par exemple, envoyaient des missionnaires avec un message, ils étaient des apôtres. Mais pas au même sens que apôtres choisis par Christ et envoyés par Christ. Donc, ces ministères d'apostolat et de prophétie sont liés. Ces vérités, ces mystères, ont été révélés par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Et donc, ils ont été le fondement pour l'établissement de l'Église, l'établissement des doctrines, mais aussi comment la vie chrétienne doit être vécue pour établir surtout l'Écriture sainte du Nouveau Testament. Ces révélations reçues par les apôtres, reçues par les prophètes de Christ, ont donc été retranscrites, ils ont été partagées, hein, et c'est ce que nous avons même encore aujourd'hui, hein, et eux seuls donc ont été choisis pour cette tâche. Alors maintenant, on comprend en étudiant les choses que, par exemple, un apôtre de Christ, si on reprend, hein, les caractéristiques qui ont été formulées au début du livre des Actes, quand il s'agissait de remplacer Judas Iscariote et qu'il y avait un choix à faire, n'est-ce pas? Il y avait des caractéristiques précises. Hein, il fallait que ce soit des personnes qui étaient là dès le commencement, qui ont connu Christ, qui ont été des témoins, etc. Donc, il y avait quand même des spécificités très restreintes pour être un apôtre de Christ. Après 2 générations, est-ce qu'il existait encore des personnes qui étaient vraiment témoins oculaires de la vie de Christ, qui avaient été là dès le commencement et qui pouvaient être appelés apôtres de Christ? Hein, on comprend que c'est quelque chose qui s'est progressivement donc effacé. Aujourd'hui, il n'y a donc plus d'apôtres de Christ, ni même de prophètes de Christ dans le sens, hein, de ceux qui ont reçu une révélation pour la proclamer, pour la partager, la retranscrire, hein, à l'Église. Ces ministères-là n'existent plus. Et donc, puisqu'il n'y a plus d'apôtres ni de prophètes de Christ, il n'y a plus de possibilité d'une nouvelle révélation qui puisse être considérée comme étant fondamentale pour la foi, pour l'établissement de la saine doctrine, comme devant même être ajoutée à la parole de Dieu. Alors, en se rappelant bon, de toutes ces choses-là, bon, je pourrais prendre le temps hein, de revoir toutes ces choses hein, par rapport à l'apostolat et les requis, etc. Mais retenons que depuis la fin hein, de ces ministères d'apostolat et de prophétie ayant établi les Écritures saintes du Nouveau Testament, on comprend que c'est sur l'enseignement et cette révélation-là que l'Église a été fondée hein, sur ces apôtres qui ont reçu les révélations et qui ont enseigné, mis par écrit ce qu'ils ont reçu, partagé aux différentes églises, et ces églises ont partagé hein, ces lettres avec d'autres églises. Mais l'Église repose aujourd'hui sur quoi? Sur des enseignants et des prédicateurs de la parole. C'est-à-dire que cet enseignement qui a été apporté par les apôtres et les prophètes, cette révélation reçue qui a été enseignée, bah, c'est cet enseignement-là que nous trouvons dans les Écritures et c'est cet enseignement-là que l'on partage aujourd'hui. Et donc dans l'Église, il n'y a plus que des serviteurs de Dieu qui ont cette capacité de pouvoir eh bien, étudier, partager, enseigner les vérités de la parole de Dieu telles que les apôtres l'ont enseigné. Encore une fois, l'exemple des premiers chrétiens, ils progressaient, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Okay? Ça en vient pour nous à comprendre que quiconque aujourd'hui qui prétend avoir reçu une nouvelle révélation de Dieu, qui présente son message comme divinement inspiré ou qui s'arroge une autorité comparable à celle des apôtres, à celle de la Bible, c'est quelqu'un qui va égarer les gens. Et c'est pour ça que bon, pour nous, hein, nous croyons bien sûr en la place fondamentale, en l'autorité des Écritures pour déterminer ce que nous devons croire et comment nous devons vivre. Hein, ça fait partie hein, de ces 5 proclamations même de la Réforme hein, sur la grâce seulement, mais dans tout ça, il y a aussi la Bible seulement, hein, sola scriptura. C'est-à-dire que la Bible est l'unique et seule autorité que nous avons aujourd'hui pour comprendre qui est Dieu, pour comprendre ce qu'est la foi en Jésus-Christ, pour comprendre comment nous devons vivre, comment nous pouvons plaire à Dieu, quelles sont les choses que nous devons croire, que nous devons enseigner. C'est la Bible. Malheureusement, hein, il arrive que dans certaines églises, il y ait des chrétiens qui prêtent davantage attention à ce qu'eux vont considérer comme des révélations, que ce soit des rêves, des visions, et qui vont donner plus d'importance et plus de force à cela qu'à ce qui est écrit dans les Écritures. Pensez-y, si nous sommes appelés en tant que chrétiens à avoir du discernement, et c'est le cas, nous sommes appelés à avoir du discernement, nous sommes appelés à juger les esprits, nous sommes appelés à discerner les prophètes, discerner celui qui est un vrai enseignant du faux docteur, etc. Nous avons cette responsabilité-là en tant que chrétiens. Encore une fois, comment est-ce que nous pouvons faire cela? Sur la base de quoi? Sur la base des Écritures. C'est toujours ce qui va être déterminant pour dire ça, on peut y prêter attention. Alors ça, pas du tout. Hein, si c'est quelque chose qui ne se conforme pas, ou si c'est quelque chose qui est complètement même absent des Écritures, faire extrêmement attention à cela. Mais il y a plusieurs implications que j'aimerais quand même souligner par rapport au fait que, voilà, nous avons un canon qui est complet, nous avons une Bible qui est complète, un canon qui est, comme on dit, fermé. Bon, déjà, il va de soi que si on a un canon qui était encore ouvert, hein, qui nous permettrait d'ajouter des livres ou des passages des Écritures, hein, par le biais, hein, d'une révélation ou par une découverte d'un fragment de manuscrit ou d'un manuscrit complet, je ne sais. Voilà, en ajoutant des livres au canon, qu'est-ce qui se passerait? Nous dirions essentiellement que la Bible actuelle est incomplète et on comprend bien que quelque chose qui est incomplet ne peut pas être parfait. Quelque chose qui est incomplet, ça veut dire que pendant aussi 2000 ans, voyez, il y a des choses que Dieu attendait de nous et qu'on n'est pas au courant. Et j'ai du mal à concilier l'idée que voilà, le Dieu d'amour et de grâce ne ferait pas en sorte justement que, mais en cours de ces 2000 ans, il ne nous ait pas montré, hey, vous avez oublié quelque chose. La principale implication, c'est vraiment qu'un canon fermé, hein, c'est que tout livre supplémentaire, hein, ne peut pas être ajouté à la Bible, que les livres qui y sont actuellement inclus ne peuvent pas non plus être retranchés de la Bible. Reconnaître, admettre que le canon est fermé, signifie surtout l'idée que Dieu a déjà révélé tout ce que ses enfants ont besoin de savoir. Et croyez-moi, il y a déjà beaucoup. Il y a déjà énormément. Hein, combien de fois, moi, je suis surpris même à relire des passages, je dis, mais comment est-ce que j'ai oublié ça? Attends, mais j'ai l'impression d'avoir jamais vu ça, en fait. Et de comprendre que même avec ce que nous avons aujourd'hui, il y a tellement de choses à apprendre et à étudier et à comprendre, etc., que si on en rajoutait encore aujourd'hui, on serait, oh là là, on n'en finirait plus, n'est-ce pas? Mais Dieu nous a donné tout ce dont on a besoin de savoir. Même par rapport, hein, je dirais, le livre de l'Apocalypse, de savoir, hein, ce qui concerne les choses de la fin des temps, etc. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Moi, j'avais pas besoin de savoir. J'aurais aimé, mais j'ai pas besoin de savoir, par exemple, qu'aujourd'hui, ma voiture, finalement, tout serait réglé. J'ai prié pour cela et Dieu a répondu. Mais j'ai pas besoin de savoir non plus, tiens, jusqu'à combien d'années est-ce que je vais vivre? Est-ce que l'année prochaine, est-ce que je vais être en bonne santé ou avoir un problème de santé? C'est tout ce que j'ai besoin de savoir pour ma vie, pour ma foi, pour mes relations, dans mon couple, dans ma famille, dans l'église, etc. Tout ce que j'ai besoin vraiment de savoir, je l'ai déjà. C'est à ma portée. Mais un canon fermé ne signifie pas que Dieu a cessé de se révéler aux gens aujourd'hui. Et ça, il faut vraiment apporter la nuance. Parce que je crois que oui, Dieu, il agit encore aujourd'hui, parfois de manière qui nous semble à nous, mais comment est-ce que c'est possible? Surtout dans des pays, des coins du monde où la parole de Dieu est difficile d'accès. Je crois que Dieu agit. Et je crois qu'il permet à des personnes de le connaître, même par des situations spéciales et miraculeuses. Mais cela ne remplace pas l'autorité des Écritures. Quand il y a quelqu'un qui va me dire, j'ai eu une vision de Jésus-Christ et il m'a guéri. Moi, je veux dire, bon, qu'est-ce que tu veux dire par guérir? Et qu'est-ce que ça a changé pour toi aujourd'hui? Est-ce que, je vais commencer à vérifier, est-ce qu'il y a eu ce moment dans ta vie où, comme les Écritures le demandent, tu t'es repenti de tes péchés et tu as placé ta foi en Jésus-Christ lui seul? Et ça, c'est déterminant. C'est de pouvoir prendre même un événement qui est comme celui-là, qui pour nous serait, c'est quand même au-delà de l'ordinaire, mais de ramener ça à la lumière des Écritures, déjà pour s'assurer que la personne soit réellement sauvée. Mais non, je crois que Dieu, il agit encore. Et Dieu, il a placé justement dans ce canon fermé des Écritures, donc tout ce que l'on a besoin de savoir sur lui-même, sur nous-mêmes, sur la manière dont nous devons vivre et ce qui doit encore arriver. Mais alors, tout autre livre religieux qui prétend être une révélation de Dieu, ou qui est considéré par certains comme étant une révélation de Dieu, sur la base de ce que déjà la Bible dit et de ce que nous comprenons, doit logiquement être rejeté par les chrétiens. On a déjà parlé de plusieurs avertissements, mais il y a encore des mises en garde que nous ne pouvons pas négliger, qui sont à considérer. Déjà, nous avons cette responsabilité, donc, de discerner tout ce qui est contraire à l'enseignement des apôtres de Christ. Rappelez-vous de ce que Paul a écrit dans Galates chapitre 1, versets 6 à 9. Paul, il écrit: Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Et voici l'avertissement. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. C'est un mot très fort, le mot anathème, un maudit. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alors, cet évangile, ils l'ont reçu de qui? Ben, déjà, c'était les apôtres, ces mêmes apôtres qui nous ont laissé leurs enseignements, qui sont inspirés de Dieu. Donc, pour nous, on a cet avertissement d'être des personnes qui sachent discerner entre ce qui est une doctrine biblique et ce qui ne l'est pas. On peut également rappeler que lorsque Jude écrit sa petite épître, qui est bon, quand même quelque part assez tardive, elle est datée entre 68 et 70 après Jésus-Christ, mais c'est justement un des derniers livres qui a été inclus dans le canon du Nouveau Testament. Jude dit ceci, il dit: Bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes. Donc le mot foi ici, la foi dans ce passage, il fait référence donc à la somme de tout ce que les chrétiens croient, à tous les enseignements des apôtres, à l'ensemble des croyances chrétiennes. C'est cette foi transmise, cette foi enseignée par les apôtres. En d'autres termes, tout ce que nous croyons dans la foi chrétienne a déjà été transmis. Transmis une fois pour toutes. Ou bien il a été révélé aux saints par les apôtres et les prophètes. Donc par écriture, Dieu nous a donné, par les écritures, Dieu nous a donné un corpus, un recueil de connaissances qui est final, qui est complet, qui est tout ce qu'il y a besoin pour vivre la foi chrétienne. La Bible nous met en garde également contre tout ajout aux paroles de Dieu. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 30 et versets 5 et 6, il nous dit: Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu sois trouvé menteur. Elle nous met en garde contre tout ajout, tout retranchement au commandement de Dieu. On avait déjà vu, il me semble, ces passages de Deutéronome chapitre 4 et verset 2, ou même au chapitre 12 et verset 32, où il y a ce commandement de ne rien retrancher, de ne rien ajouter. Ces commandements, nous les retrouvons également à la fin du livre de l'Apocalypse, qui, historiquement, chronologiquement, est le dernier livre du Nouveau Testament à avoir été rédigé. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc, il y a tellement d'avertissements que on en revient à cette question, est-ce qu'il serait possible encore aujourd'hui pour nous d'avoir une nouvelle révélation ou d'intégrer quelque chose de plus à la Bible, moi je ne m'y oserais pas. Justement à cause des avertissements que nous trouvons dans la Bible elle-même. Hein, je crois que pour moi, je ne veux pas me risquer à cela. Mais encore une fois, par rapport à ce que la Bible nous dit, par rapport à ce que l'histoire de l'Église nous apporte, pour moi, il fait nul doute que cet ouvrage que nous avons aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Il fait nul doute que ces écrits ont été inspirés de Dieu, qui ont été retranscrits par des êtres humains qui, même dans leur imperfection, ont fait un travail considérable, poussé par l'esprit, de retranscrire, de préserver, de partager ces écrits pour que aujourd'hui, ben, nous les avons encore, et nous en profitons. Et nous menons une vie qui, même si le monde ne veut pas le croire, la vie chrétienne est celle qui est le plus stable, de plus paisible, de plus heureuse, de plus joyeuse. C'est la vie qui vraiment nous montre comment traverser les circonstances de la vie où, oui, ça peut être difficile, ça peut être agaçant, mais Dieu nous communique sa force par son esprit, par sa parole. Et sincèrement, je veux dire, par rapport à tout ce que nous avons déjà vu depuis le début de cette étude, mais aussi ce que nous avons vu sur la parole écrite, comment Dieu l'a préservée et comment nous l'avons aujourd'hui, c'est, pour moi, c'est un miracle. C'est extraordinaire. Et ça ajoute du poids. Encore une fois, bon, l'objectif de l'étude, c'est pas de dire voilà des preuves irréfutables et vous devez tous vous convertir. On a apporté plusieurs évidences et on en pourrait en rajouter plein d'autres à cela. Mais voilà, c'est à chaque fois pour moi l'image, c'est on a une balance et puis on continue d'ajouter dans la balance. Et cette balance, elle penche de plus en plus vers, il est tout à fait raisonnable de croire. Il n'y a rien d'irraisonnable dans la foi. Il n'y a rien d'illogique dans la foi. Quand on considère les choses et quand on les prend au mot, c'est bien plus que raisonnable. Hein, c'est quelque chose de sage.